RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de C'est pas du vent. Après une plongée dans l'univers de Mbeubeuse, la plus grande décharge à ciel ouvert du Sénégal, où survivent des centaines de recycleurs, nous allons nous intéresser à la gestion durable de ces déchets ménagers. Aujourd'hui en Afrique, les déchets sont généralement enfouis ou abandonnés dans des décharges aussi dangereuses que toxiques. Des méthodes dépassées selon de jeunes entrepreneurs africains qui se sont lancés avec succès dans le recyclage des déchets au Togo et en Côte d'Ivoire. Explication à suivre dans une dizaine de minutes, mais tout d'abord, retour sur le cas de Mbeubeuse.
C'est pas du vent sur RFI.
Comment est-ce que tu t'appelles ?
Je m'appelle Moussa Mboy.
Difficile comme métier ?
Un peu difficile, très difficile même. Ah, tu les vois comme ça ? Naturellement, c'est difficile. Tu prends des choses très lourdes, tu fais des choses difficiles, tu ramasses des tessons de bouteilles, du fer tranchant, ça vous tranche quoi, la main, toujours comme ça.
Quelle superficie ça fait?
Bon, d'après certains, c'est une superficie de plus de 70 hectares.
D'après certains, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement.
C'est pas exactement parce qu'en fait, la décharge, elle grandit de jour en jour. D'après les études de 2008-2009, c'était 70 hectares. 2009 à maintenant, beaucoup d'encre a coulé, donc la décharge s'est agrandie davantage avec le compactage et l'acheminement des déchets. C'est un endroit qui est impressionnant. Bon, il y a de la poussière, il y a de la fumée, il y a de l'odeur, il y a tout. C'est un endroit quand même qui répond à son nom. C'est une décharge.
Je suis Boubacar Mbot, je suis conseiller spécial du président de la République du Sénégal. Et je m'occupe essentiellement des questions d'environnement et d'énergie.
Alors parlons un peu de la décharge de Mbeubeuse. Il a été question de la délocaliser ou de la réhabiliter. Qu'en est-il aujourd'hui? Quels sont les projets concernant cette décharge?
Les projets sont en cours. Nous avons au Sénégal mis en place une politique de mix énergétique dont le résultat a été la sélection de 6 projets, 5 projets solaires et un projet éolien. Mais dans ce mix énergétique, nous n'avons pas malheureusement de centrales à biomasse. Mais en plus de cela, la question des déchets dans les villes africaines est devenue une question de santé publique et cette décharge de Mbeubeuse qui à l'époque ne posait pas trop de problèmes parce qu'elle était totalement à la périphérie de la ville, mais avec l'accroissement démographique, on en évolue à une situation où tout alentour de Mbeubeuse est habité. Dakar étant une presqu'île, son étalement n'est envisageable que le long de la nationale à la sortie, et donc de plus en plus, Mbeubeuse va être ceinturée. Et donc de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas laisser en l'état la décharge de Mbeubeuse.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement?
Il y a déjà une étude de la Banque mondiale dans le cadre du programme ESMAP qui a essayé d'estimer déjà le niveau entre guillemets, de fabrication de biogaz déjà. Puisque la décharge, elle date de très longtemps.
1968 je crois.
Oui, oui, donc et même avant. Hein. C'est en 68 qu'elle a commencé à s'amonceler, mais avant elle était déjà là. Alors cette étude estime à 12 millions de mètres cubes, et ça c'était en 2007-2008, à 12 millions de mètres cubes, le potentiel de gaz déjà fermenté à Mbeubeuse. Donc il y a des possibilités, soit de venir piquer ce gaz-là, hein, de l'extraire et de l'utiliser. Déjà 12 millions de mètres cubes, c'est déjà de quoi faire fonctionner une centrale de 8 à 10 mégas. Et puis ensuite, évidemment, en utilisant la biodigestion pour pouvoir récupérer les engrais, qui sont des engrais naturels qu'on pourrait utiliser évidemment pour s'attaquer aussi à la question de la dégradation des terres. Donc il y a cette possibilité-là, ou alors une solution qui serait une solution tout simplement d'apprêtement.
C'est-à-dire
enfouir, disons, tout ce que l'on peut enfouir, écrêter, disons, la décharge, et puis ensuite la couvrir. Moi, j'ai vu ça en Italie, où des décharges ont été couvertes avec un tapis synthétique vert. Vous avez l'impression d'une colline. En fait, c'est une décharge, mais qui a été, disons, traitée. Mais ça ne résoudrait qu'en partie les problèmes. Et évidemment, la macrocéphalie de Dakar est telle que la production de déchets ira crescendo. Hein, puisque même cette politique de déconcentration, bon, elle ne fera ses effets peut-être que dans 10, 15 ans, 20 ans. Donc nous ne pouvons pas ne pas trouver une solution correcte. Et moi je dis que l'intérêt est double. Ça nous permet de freiner les nuisances environnementales, puisque vous savez, une décharge, quand elle dure quelque part, il y a l'exiva qui s'enfonce sur la terre et qui aussi contamine en fait les sols alentours. Or, cette zone-là est une zone de maraîchage, c'est connu, les Niailles, qui pour l'essentiel produisent, disons, les légumes dont se nourrissent les Dakarois et les villes environnantes.
Et donc, on a retrouvé des métaux lourds, justement, issus de la décharge de Mbeubeus, qui contaminent donc ces champs.
En amont, les déchets ne sont pas traités. Donc, ce qu'il faut, je pense que moi, en tant que conseiller, la difficulté provient souvent de l'attelage institutionnel. Puisque cette question des déchets ménagers implique à la fois la gouvernance locale, donc le ministère des collectivités locales, puisque c'est en amont qu'il faut commencer le tri, qu'il faut mettre en œuvre des moyens logistiques pour ramasser et traiter les déchets. Ça implique également le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, puisque c'est des nuisances environnementales, et puis vous parlez de météo lourd, donc traiter ces déchets vont engendrer des péjorations de l'environnement qui risquent de nuire à la santé des populations. Et puis enfin, le ministère de l'Énergie, puisque s'il s'agit de valoriser ces déchets, notamment en énergie, le ministère de l'Énergie est impliqué. Donc il y a ces trois institutions qui sont, et puis ensuite les collectivités locales.
Mais est-ce que toutes ces institutions arrivent à se mettre d'accord sur un projet commun ou est-ce que c'est difficile
justement ? J'ai l'impression que nous n'avons pas encore trouvé la bonne formule pour que chacun joue son rôle. Donc à mon avis, il faudrait que l'on puisse trouver un bon attelage pour pouvoir adresser ces questions-là. Puisque les dynamiques que nous enclenchons aujourd'hui, la nouvelle ville de Damiadio ne peut pas produire des déchets et les traiter comme ça se fait à Dakar. Ça n'aurait pas de sens. Mais en plus, la difficulté aujourd'hui même avec des systèmes artisanaux de collecte et de convoi des déchets font qu'il y a une instabilité dans le traitement de ces déchets-là qui pose problème. Une capitale comme Dakar ne peut plus se permettre de ne pas avoir un système industriel, je dis bien industriel, de collecte, puisque c'est une très grande agglomération. Donc, c'est une question d'importance capitale qu'il faut traiter. Et ce n'est pas seulement à Dakar, il ne faut pas seulement penser à Dakar. Il y a aussi des villes à l'intérieur du pays qui demandent à avoir de telles infrastructures. Donc, une solution peut-être à Dakar où il y a une urgence, et puis dupliquer la même solution dans ces villes-là, et permettre également d'enrichir notre mix énergétique, mais également de pouvoir aussi avancer sur la question de l'emploi. Puisqu'en réalité, le traitement des déchets est à haute intensité de main-d'œuvre. Donc, toutes ces questions-là sont très liées. La gestion de la ville implique une gestion environnementale globale, liée à la question de l'énergie, liée à la question des bâtiments, liée à la question du traitement des déchets et de leur valorisation, etc., etc.
Et il faut rappeler aussi que le droit à un environnement sain est inscrit dans la Constitution au Sénégal. Il y a donc urgence, c'est ça que je veux
dire.
Oui,
tout à fait. Non, l'urgence, elle est là. Ça, je vous ne le conteste pas. Même sans cette disposition de la Constitution, vous savez, en matière d'environnement, souvent, il y a ce qu'on appelle le coût de l'inaction. Quand vous n'agissez pas et que vous n'agissez pas à temps, il y a des coûts auxquels vous faites face. Si on ne travaille pas à baisser les niveaux de pollution et que régulièrement les asthmatiques, les gens soumis aux maladies bronchopulmonaires, les gens qui ont un débit qui ont des maladies cardiovasculaires sont souvent soumis, disons, aux effets de la pollution. Le résultat, c'est que ils vont fréquenter les structures musicales de plus en plus, ils vont dépenser de plus en plus de l'argent. Mais c'est pas moi qui paye, c'est pas toi qui paye, mais c'est un coût pour la société.
J'ai un super magnétophone et un super magnétoscope. J'ai aussi plusieurs téléphones et même aussi des interphones. J'ai deux mini talkie-walkie ainsi que de super mobiles. J'ai un tas de boutons de manchette et des milliers de 30 centimètres. J'ai une télé. J'achète tous les yeux fermés car
Après Dakar, nous voici à Lomé, une autre capitale d'Afrique de l'Ouest, confrontée à des difficultés de gestion des déchets ménagers. Des dépôts d'ordures sauvages persistent en différents lieux de la ville et la collecte des déchets reste faible malgré la mise en place en 2007 du projet PEUL, projet environnement urbain de Lomé, piloté par la municipalité et plusieurs ONG togolaises. Mais les choses pourraient changer grâce au secteur privé, du moins c'est ce qu'espère notre invité. Il est au téléphone depuis Lomé, Edem Dailmé. Meïda, bonjour.
Bonjour, monsieur Strauss.
Vous êtes le fondateur d'AGR Africa Global Recycling, une PME togolaise créée en 2013 pour recycler les déchets. Aujourd'hui, une centaine de tonnes de déchets sont traitées chaque mois par AGR. Comment est né ce projet? Quel était votre constat de départ?
Alors, comment est né ce projet? Ce projet vient principalement du constat des échecs récurrents de toutes les politiques, ça peut paraître assez sévère, mais de toutes les politiques qui ont été menées dans nos pays d'Afrique subsaharienne sur la question de la gestion durable des déchets. Puisque jusqu'à présent, cette gestion était principalement, je dirais, gérée dans l'urgence. Il fallait se dépêcher uniquement pour mettre en place de la collecte ou de la pré-collecte et puis l'envoyer sur les décharges. Or, les défis que pose aujourd'hui la dimension environnementale, la gestion durable des déchets dans nos pays en Afrique subsaharienne, relèvent de toute une chaîne de valeurs à mettre en place et à créer.
Alors vous, il y a une phrase qui vous fait bondir, c'est « on a toujours fait comme ça ». En matière de gestion des déchets, il faut arrêter de faire comme on faisait avant, l'enfouissement et la création de décharges, c'est dépassé selon vous ?
Moi, je pense qu'effectivement, c'est dépassé. Il faut avoir une vue d'ensemble. Et nous sommes dans un domaine où la nécessité d'inclure le déchet en tant que point central d'un nouvel écosystème est nécessaire. Autour du déchet, nous pouvons parler effectivement environnement, nous pouvons parler industrie, nous pouvons parler économie. Il y a nécessité de réinventer tout un nouveau modèle économique et surtout social autour de la question des déchets. Donc effectivement, on a toujours fait comme ça. Je pense que c'est une aberration. Il y a deux mots que je peux aujourd'hui mettre en avant, transposition ou de l'inspiration. Donc transposition, je pense que ça a fait ses preuves et nous devons en sortir. Transposition des modèles prêt-à-porter, qui sont surtout des modèles avec des coûts prohibitifs et sans réel impact durable dans nos territoires. Mais inspiration de ce qui se fait d'ailleurs dans les pays du Nord ou d'ailleurs j'ai acquis mes expériences. Et surtout la question de l'adaptabilité dans nos territoires en prenant en compte la mesure culturelle des choses.
Alors aujourd'hui, vous travaillez avec des industriels, des écoles ou encore des administrations publiques. Concrètement, comment ça se passe? Comment récupérez-vous les déchets? Quel type de déchets sont traités? Que deviennent-ils? Expliquez-nous la chaîne.
Alors la chaîne, nous avons opté pour une méthode multifilière. Donc nous sommes en mesure de récupérer et de valoriser différents types de déchets dès lors qu'ils sont valorisables et recyclables. L'idée première est, partout où nous installons, de proposer d'abord une nouvelle chaîne de gestion, toute une méthode intelligente de gestion des déchets, parce qu'aujourd'hui, les producteurs de déchets n'intègrent pas le poste déchets dans leur process. Or, elle fait partie intégrante de tout le process. Il y a d'abord une dimension de sensibilisation à avoir sur le sujet. Ensuite, un cahier des charges est mis en place entre les fournisseurs et nous. Nous apportons un service qui peut être rémunéré ou non, suivant le projet. Et nous allons ensuite, une fois que le cahier des charges est respecté, nous reprenons ces déchets qui sont amenés sur notre centre de tri, où vous avez des personnes qui ont été formées, qui font un travail très technique, qui aujourd'hui vont trier, vont valoriser différents types de plastiques. Nous en sommes à peu près à une vingtaine de résines différentes aujourd'hui sur notre centre de tri. Différents types de papier, nous en sommes à peu près également à une vingtaine de types de qualités différentes, que nous envoyons dans des filières spécialisées de transformation, principalement en Europe. Et nous sommes concrètement en train de voir comment développer des filières en interne au Togo, mais aussi dans la sous-région ouest-africaine.
Alors aujourd'hui, les déchets que vous recyclez sont vendus à des entreprises qui les utiliseront pour faire soit des bâches ou des tuyaux ou des livres. Mais vous, ce qui est intéressant, c'est que vous reversez une partie de l'argent à ceux qui vous ont fourni à l'origine ces déchets. Quel est l'objectif? C'est de les intéresser?
Alors, l'objectif, effectivement, de les intéresser, vous savez que les mesures doivent aussi être incitatives, mais surtout, cela répond à un modèle économique et à un impératif pour nous, c'est s'inscrit dans l'économie circulaire. Donc, c'est dans tout cet ensemble que nous avons mis en place ce modèle.
La lutte pour la sauvegarde de la planète ne pourra se faire que si elle est rentable. C'est ce que vous avez déclaré à nos confrères du journal Le Monde. C'est rentable de recycler les déchets aujourd'hui au Togo ?
C'est totalement rentable. Cela peut être plus rentable si les gouvernants, si les décideurs se mettent tous autour de la table, d'abord dans un cadre de vrai partenariat public-privé, mais aussi dans un cadre très important de coopération sud-sud. Parce que partout où vous passez aujourd'hui en Afrique, vous avez des initiatives extraordinaires qui ne sont absolument pas mises en lumière, surtout dans ce cadre de partenariat sud-sud. Donc oui, il y a une rentabilité, mais cela aussi dépend de plusieurs facteurs. La fiscalité, par exemple, des mesures incitatives qui manquent de façon extraordinaire. La nécessité pour les décideurs d'avoir plus d'intérêt pour ce secteur d'activité, générateur d'emplois et de formation, d'émergence de nouveaux métiers. Et c'est comme ça qu'il faut aborder la question de la gestion des déchets, selon nous.
C'est un modèle que l'on pourrait dupliquer et faire à grande échelle, selon vous ?
Bien sûr. Le modèle que nous proposons aujourd'hui est totalement duplicable, réplicable, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, en milieu périurbain. Il suffit juste simplement de comprendre le mécanisme à mettre en place, de mettre en place un modèle et de faire en fonction de la dimension culturelle des choses, des réalités du territoire, mais aussi du type de déchets que nous trouvons sur ces territoires. Tout aujourd'hui peut être valorisé.
Eh bien écoutez, merci infiniment Edem Dalmeida. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Africa Global Recycling, une PME togolaise de recyclage des déchets. Bonne journée à vous, Alomé.
Merci, bonne journée à vous également. Merci aux auditeurs de RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Chaque mois, 500 containers de déchets électroniques en provenance des pays industrialisés sont débarqués au Ghana et finissent ici à Agboglossi. Personne n'en veut puisqu'ils contiennent des métaux lourds, du plomb, du mercure, et ils sont envoyés ici et jetés sur le site.
Ils cherchent du cuivre et du métal, ils les enlèvent des ordinateurs démantelés, ils les brûlent. Ils enlèvent les câbles, les fils, puis ils les brûlent. Après, ils enlèvent le cuivre et vont le peser là-bas, où ils se font payer.
Regardez celui-là dans les yeux. Ah, il n'arrive pas à les ouvrir à cause de la fumée. Tu as mal aux yeux ?
Je ne sais pas. Je suis allé me coucher et quand je me suis réveillé, c'était comme ça. Ça me fait mal. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Tous les jours, quand je me réveille, c'est comme ça.
Pour nous écrire, cestpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes à présent avec Évariste Aoui, un jeune entrepreneur ivoirien, président du PARO, le programme assainissement recyclage ordures créé en 2011 en Côte d'Ivoire. Son objectif, recycler les déchets électriques et électroniques qui arrivent par conteneurs entiers sur le continent africain.
La gestion des déchets est un gros problème au niveau local, même au niveau régional. Parce que jusqu'à présent, il n'existe pas encore de méthodologie, il n'existe pas encore de structure, d'infrastructure pour prendre en charge les déchets. Et donc les différentes interventions que nous constatons sur le terrain se limitent à la collecte des déchets, puis à le déversement sur les décharges. Et du coup, nous n'avons pas de dimension de valorisation, de recyclage de ces déchets.
Et donc vous avez souhaité justement valoriser ces déchets et plus particulièrement les déchets électriques et électroniques.
Le début de l'histoire, c'est que chaque année, nous avons des dizaines de centaines de tonnes d'équipements électriques et électroniques qui nous viennent sur le marché local, mais en fin de vie. Alors, la question, c'est que deviennent ces équipements-là au bout de la chaîne. Et là, il n'existe aucune initiative. Je me souviens, lorsque je commençais l'activité, il n'existait pas de réglementation, il n'existait pas d'initiative formelle, il n'existait absolument rien qui concernait les déchets électriques et électroniques. Alors je me suis dit, il faut faire quelque chose parce que justement, ça transforme le pays en cimetière numérique, ça crée un gros phénomène écologique, ça pollue tout ce qui est forme de vie au sein de la lagune. Et donc, c'est tout un phénomène de bioaccumulation. Et du coup, les métaux lourds qui sont contenus dans ces équipements-là, qui se sont rejetés dans l'environnement, se retrouvent dans nos assiettes. Alors, l'idée, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter une solution qui soit toute simple, flexible, adaptée à notre contexte local, mais qui peut contribuer à résoudre ce problème et qu'on soit peut améliorer les conditions de vie. Donc, c'est ainsi qu'on a commencé à travailler sur le projet d'équipement électrique et électronique, et qui a commencé par une phase de sensibilisation des acteurs informels qui étaient déjà impliqués dans la chaîne.
C'est-à-dire tous les petits recycleurs qui travaillaient au péril de leur vie finalement et de leur santé surtout pour récupérer certains matériaux.
Justement, sur les casses, nous avons des gens qui sans protection, sans connaissance des risques que représentent ces déchets, les collectent juste pour une petite fraction d'aluminium, voilà, s'exposer à une contamination directe, voilà, avec tout ce qui était substance toxique contenue. Et après, justement, tout ce qui ne servait pas, tout ce qui ne disposait pas de marché, voilà, sur le plan local, était en tout rejeté dans la lagune Ébrier. Et donc l'idée, c'était vraiment de développer une action de sensibilisation pour amener ces acteurs informels à comprendre ce que représentent vraiment les déchets d'équipements électriques et électroniques, à comprendre qu'il est nécessaire d'éloigner leurs enfants, puisque les enfants travaillent avec eux sur les casses. Ensuite, leur apprendre tout ce qu'il faut en termes de protection, voilà, en termes également de méthodologie, pour arriver quand même à continuer de travailler, mais cette fois-ci dans des conditions minimales de sécurité. Nous avons initié avec eux la collecte des équipements. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir valoriser les équipements qui sont même collectés chez les ferrailleurs, avec une valeur ajoutée, qui puisse leur permettre de gagner plus. Et en comprenant qu'effectivement, il est possible de bien faire le travail, de se protéger, de collecter comme il faut, de ne pas aller jusqu'à les rejeter dans l'environnement, mais de gagner un peu plus que ce qu'on gagnait auparavant en rejetant dans l'environnement. Donc, il fallait les intéresser à s'inscrire dans notre démarche, notre approche. Nous avons également travaillé avec le ministère de l'Environnement sur un contenu d'avant-projet de loi qui va porter organisation de toute la filière des D3E.
Et là, les D3E, c'est les déchets, électroniques.
Voilà, les déchets d'équipement électrique et électronique, les D3E. Et en fin de compte, nous avons, je pense que ce texte de loi est passé au Conseil des ministres, a été validé. Nous attendons vraiment l'implémentation, que les choses rentrent dans leur phase active. Pour l'instant, ça a été validé, mais ça reste encore dans les tiroirs. Donc nous continuons d'exercer encore toute cette pression-là sur les autorités, en espérant qu'en fin de compte, on passera à des choses beaucoup plus structurées.
Revenons-en à votre ONG. Oui. Vous, concrètement, donc, vous avez sensibilisé les partenaires, vous travaillez donc avec 8000 ferrailleurs, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites de ces déchets? Il y a eu un aspect... réparation déjà, hein, puisqu'on parle d'obsolescence programmée concernant ces produits, c'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie limitée. Alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites?
Nous avons développé au sein de notre structure une dimension de reconditionnement de ces équipements.
C'est-à-dire que vous les réparez tout simplement?
Nous les réparons simplement. Donc nous sensibilisons le secteur privé, donc nous intéressons le RSE pour dire qu'il est possible que...
La RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises.
La responsabilité sociale des entreprises leur dit que c'est possible qu'ensemble nous puissions faire quelque chose. C'est vrai que ça vous donne une bonne image, vous. Votre conscience est éco-citoyenne et nous, ça nous permet d'avoir accès, voilà, à vos déchets et de pouvoir quand même les introduire dans un circuit formel, voilà, de valorisation sans risque qu'une fraction de ces équipements se retrouvent dans la lagune, dans l'environnement. Donc ça intéresse vraiment un certain nombre d'entreprises, d'administrations. Nous collectons les déchets et justement nous avons un plateau de techniciens, voilà, qui se déploient et remettent ces équipements-là en état. Et ces équipements reconditionnés-là, nous les remettons dans le circuit de consommation, mais avec des coûts très 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 faibles pour permettre à tout le monde d'avoir accès, voilà, à un ordinateur, à une télévision, à un poste radio, ainsi de suite, voilà, rien que pour améliorer leurs conditions de vie sans grand moyen. Une autre dimension suffisamment intéressante, c'est des équipements qui ne peuvent plus être reconditionnés, que deviennent ces équipements-là. Alors nous avons bâti des partenariats stratégiques avec un certain nombre d'entreprises européennes, concrètement Paganetti, qui est une structure qui travaille dans le domaine de recyclage. Et nous sommes justement engagés ensemble. Nous avons maintenant un atelier sur 500 mètres, en zone 4 à Makori, et super équipé. Voilà, donc c'est une économie circulaire que nous mettons en place pour essayer de booster le développement et la bonne gestion de ces déchets.
Très concrètement, combien de tonnes de déchets, je ne sais pas s'il faut parler comme ça, ou combien de matériaux arrivez-vous à recycler chaque année ou à remettre dans le circuit?
Chaque année, nous avons autour d'une centaine de tonnes que nous prenons en charge. Cette centaine de tonnes que nous prenons en charge est répartie entre l'activité de reconditionnement et l'activité de démantèlement. Mais il faut le dire également que chaque année qui passe, nous avons le volume que nous prenons en charge qui augmente. Donc nous avons commencé timidement avec une trentaine de tonnes, après nous sommes passés à une cinquantaine de tonnes, nous sommes à 100 tonnes d'autrement, voilà, ainsi de suite. Et ça représente quand même, au regard des équipements qui sont déclarés, quand même une partie pas très grande. Et le défi justement se situe au niveau de l'adhésion des populations, l'adhésion du secteur privé, l'adhésion des autorités. Et donc là, nous espérons, nous continuons cette action de sensibilisation. Nous espérons, avec le partenariat qui aujourd'hui est en train de se finaliser avec un certain nombre d'opérateurs, comme le port autonome d'Abidjan et comme MTN, ainsi de suite, pouvoir quand même faciliter la collecte. Parce que quoi qu'on en dise, quelles que soient les infrastructures, la collecte reste l'élément essentiel de la chaîne de valorisation des déchets. Il faut bien que ce soit collecté avant d'être traité. Donc c'est vrai que nous collectons de la matière qui a de la valeur auprès des consommateurs, mais il faut bien que nous soyons capables de collecter de la matière qui n'a pas de valeur auprès des collecteurs. Donc nous avons essayé de monter un business plan qui s'équilibre avec la valorisation des choses qui ont de la valeur, et les valeurs que nous générons justement nous aident à prendre en charge ce qui n'a pas du tout de valeur. Donc en faisant ainsi, nous sommes sûrs que nous respectons notre philosophie des zéro déchet dans l'environnement. Et c'est là que ça devient très intéressant avec cette gestion formelle.
Évariste Aoui, président du PARO, le programme assainissement recyclage ordures, créé en 2011 en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission réalisée par François Porcheron. Demain, nous partirons à Madagascar avec un reportage sur la gestion des ressources naturelles au niveau local. Bonne journée à tous et à demain.